VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 3 septembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
Centrafrique, l'ONU, l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique centrale condamnent des affrontements d'une rare violence entre groupes armés.
Lutte contre Ebola en République démocratique du Congo. Le docteur Oli Ilunga, ex-ministre de la Santé, a été entendu sur des fonds versés à des chefs coutumiers.
Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, assure que son organisation n'abandonnera pas la RDC.
Le président gabonais Ali Bongo Ondimba subit des examens médicaux de routine à Londres, 10 mois après son AVC.
L'ouragan Dorian fait au moins 5 morts aux Bahamas. Plusieurs États du sud-est des États-Unis sont ordonnés des évacuations.
Une explosion à Kaboul fait 16 morts et plus de 100 blessés dans la capitale afghane.
Le premier ministre britannique Boris Johnson menace de convoquer des élections législatives anticipées en cas de non-approbation par le Parlement de son plan de Brexit.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Centrafrique, l'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la mission des Nations unies ont condamné hier des affrontements d'une rare violence entre groupes armés dans l'extrême nord-est du pays. Le point avec Eddy Issango.
Les trois organisations internationales qualifient d'incidents inacceptables les affrontements qui ont eu lieu dimanche et lundi à Birao entre les mouvements des libérateurs centrafricains pour la justice, MLCJ, et les Fonds populaires pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC. C'est une violation flagrante de l'accord de paix de Khartoum, indiquent les trois organisations dans leur communiqué d'hier. Des milliers de civils ont fui les affrontements entre les deux groupes armés. Au moins 3 personnes ont été tuées, selon l'ONU. Parmi elles, le général Adam Coton du FPRC. Les deux groupes armés s'étaient également affrontés le 14 juillet dans les villages d'Amdafok à la frontière du Soudan, brisant la calmie installée dans le pays depuis l'accord du 6 février. La Centrafrique est dans une situation trouble depuis le renversement du président François Bozizé en 2013.
En République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré hier à Kinshasa que les Nations unies n'abandonneront pas le peuple congolais. M. Guterres a passé 3 jours en RDC où il a rencontré le nouveau président congolais, Félix Tshisekedi. Il a dit avoir pu constater un vent d'espoir, une opportunité à saisir, et il a lancé un appel à la communauté internationale à appuyer le peuple congolais et les autorités. En avril, l'ONU a renouvelé le mandat de la MONUSCO en RDC jusqu'au 31 décembre. Selon Antonio Guterres, la RDC a toujours besoin de l'ONU pour la lutte contre l'épidémie Ebola et le maintien de la paix dans l'est du pays, où 130 groupes armés ont tué 1900 personnes en 2 ans, d'après le groupe d'études sur le Congo.
Concernant cette lutte contre Ebola, l'ex-ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Ilunga, a été entendu, entre autres, sur le versement de fonds à des chefs coutumiers. C'est ce qu'a annoncé hier, lundi, son avocat à l'AFP, Jean-Roger Billon.
Le docteur Oli Ilunga, qui a démissionné le 22 juillet, est visé par une plainte pour abus de pouvoir, détournement de fonds et menaces, a indiqué son avocat Guy Kabeya dans un document transmis à l'AFP. La plainte a été déposée par un agent du ministère de la Santé qui conteste une nouvelle affectation lors de son audition le 27 août par le parquet général près la Cour de cassation. Des questions ont porté sur les fonds payés à certains chefs coutumiers pour sensibiliser leur communauté à la lutte anti-Ebola. Après l'assassinat en avril d'un médecin camerounais de l'Organisation mondiale de la santé, le ministère avait alors insisté sur l'engagement des communautés pour surmonter leur résistance et les violences contre les médecins et les bénévoles. Les fonds correspondent à des prestations de sensibilisation réellement effectuées par eux, les chefs coutumiers efficaces, a affirmé l'avocat, en niant tout détournement.
Le président gabonais Ali Bongo Ondimba subit des examens médicaux de routine à Londres où il effectue un séjour privé. C'est ce qu'a annoncé hier la présidence, 10 mois après que M. Bongo a été victime d'un AVC, en assurant qu'à aucun moment la santé du président ne s'est détériorée. Le cabinet de M. Bongo dément ainsi vigoureusement une information de l'agence Bloomberg qui a assuré lundi que M. Bongo était hospitalisé à Londres alors que son état se détériore, citant des sources proches du dossier.
Au Cameroun, les principales villes en zone anglophone avaient des allures de cités fantômes hier pour la rentrée scolaire, premier jour d'une opération ville morte lancée par les séparatistes. Une opération marquée par des rues quasi désertes, des écoles vides d'élèves et de professeurs et des commerces fermés. Depuis le début de la crise fin 2016, plus de 80% des écoles ont dû fermer dans la zone, selon l'UNICEF.
Au Sénégal, les ministres et autres responsables de l'État ne peuvent plus appeler sans limite avec leur téléphone portable de service. L'usage en est désormais plafonné selon un montant forfaitaire mensuel. C'est ce qu'a annoncé lundi le gouvernement du président Macky Sall en croisade pour diminuer les dépenses dans l'administration. Après la téléphonie mobile, des mesures sont attendues dans le domaine du téléphone fixe, de l'eau, de l'électricité, des véhicules administratifs, du carburant et de l'usage d'Internet.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. L'ouragan Dorian, qui continuait de se déchaîner sur l'archipel des Bahamas, où il a fait au moins 5 morts, devrait s'approcher mardi des côtes de plusieurs États du sud-est des États-Unis qui ont ordonné des évacuations. Floride en tête, le gouverneur des Bahamas a qualifié l'ouragan de tragédie historique pour l'archipel avec ses rues inondées, toitures emportées et arbres déracinés. L'ouragan rétrogradé lundi de catégorie 5 à 4 reste très dangereux. Mardi, il se trouvait toujours au-dessus de l'île de Grand Bahama, affectée par des pluies torrentielles et des vents catastrophiques, a souligné le Centre national des ouragans américains dans son bulletin, précisant qu'il devait se déplacer vers l'ouest dans la nuit.
Afghanistan, selon un nouveau bilan du ministère de l'Intérieur, au moins 16 personnes, toutes des civils, ont été tuées et 119 autres blessées dans l'attentat qui a secoué lundi soir Kaboul, la capitale. L'explosion a été causée par un tracteur chargé d'explosifs, disent les autorités. Elles ajoutent que 5 assaillants ont été tués et que les opérations de recherche et de sauvetage se sont poursuivies jusqu'à tôt ce matin. L'attentat, qui a été revendiqué par les talibans, s'est produit près du vaste complexe de Green Village qui abrite des agences d'aide et des organisations internationales.
Cet attentat s'est produit alors que l'émissaire américain Zalmay Khalilzad se trouve à Kaboul pour discuter avec les responsables afghans du projet d'accord de paix entre Américains et talibans. Que dit cet accord? On en sait un peu plus maintenant, Lionel Gaïma.
Le document prévoit le retrait des troupes américaines de 5 bases militaires dans un délai de 135 jours à compter de sa signature. 5 000 de 14 000 soldats américains déployés en Afghanistan seront concernés par ce retrait, a expliqué le principal négociateur américain Zalmay Khalilzad lundi sur une chaîne de télévision privée afghane. Dans un premier temps, Kaboul, la province voisine de Parwan, qui abrite la base aérienne américaine de Bagram, verront une nette réduction de la violence, a assuré Khalilzad, en précisant que le texte final de l'accord ne sera publié qu'après le feu vert du président Donald Trump. En attendant, les discussions se poursuivent avec les talibans pour déterminer où et quand l'accord de paix sera signé, a-t-il indiqué. Toute tentative des talibans de reprendre le pouvoir par la force sera inacceptable et constituera une ligne rouge pour les États-Unis, a prévenu Khalilzad, qui a briefé le président afghan Ashraf Ghani sur l'accord cadre.
Le premier ministre britannique Boris Johnson va convoquer des législatives anticipées pour le 14 octobre si son gouvernement n'arrive pas à faire adopter son plan de Brexit devant le Parlement. Abdourahmane Dia.
Si, comme on s'y attend, des élus conservateurs rebelles se joignent aux membres de l'opposition pour bloquer le projet de sortie sans accord lors d'un vote au Parlement ce mardi, Boris Johnson soumettra immédiatement une motion appelant à des élections anticipées. et il va demander aux députés de se prononcer dès mercredi. La tenue du scrutin doit être confirmée par un vote aux deux tiers de la Chambre des communes. Boris Johnson a déclaré qu'il ne souhaitait pas de nouvelles élections, mais qu'il lui serait impossible de progresser dans les discussions avec l'Union européenne si le Parlement rejette son plan. Il a indiqué qu'avec le soutien des parlementaires, il sera en mesure d'apporter les modifications nécessaires à l'accord déjà conclu par son prédécesseur Theresa May. Cet accord a déjà été rejeté à trois reprises par les députés. Des conservateurs se sont joints à l'opposition travailliste pour introduire un projet de loi qui s'opposerait à toute sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne le 31 octobre sans accord, ce qui obligerait le Parlement à demander à ce que la date de sortie soit repoussée au 20 janvier 2020.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Depuis le 1er septembre, l'Égypte a annulé le taux de change mensuel de la douane introduit en janvier 2017. Les droits de douane sur les importations de toutes sortes seront estimés quotidiennement en fonction des taux de change des devises étrangères. Par ailleurs, le projet de loi sur les subventions au carburant en Égypte passera à environ 5,15 milliards de dollars au cours de l'exercice 2018-2019 contre 7,31 milliards de dollars un an auparavant. Le surplus du cacao prévu pour la saison 2018-2019 s'établira à 18 000 tonnes en baisse par rapport aux prévisions antérieures de 36 000 tonnes selon l'Organisation internationale du commerce. Cette baisse s'explique par la hausse du taux mondial de broyage. Les broyages augmenteront de 11% en Asie pour atteindre 1166 millions de tonnes, 4% dans les Amériques pour 903 000 tonnes, 3% en Afrique pour 991 000 tonnes et 1% en Europe. Terminons avec la Chine qui veut déposer une plainte à l'Organisation mondiale du commerce en réaction à l'entrée en vigueur dimanche aux États-Unis de nouveaux droits de douane sur des produits chinois qui représentent des milliards de dollars d'importations annuelles.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Première victoire africaine hier au Mondial de basketball.
Oui, cet exploit est tunisien. Les Aigles de Carthage ont réussi à remporter leur première victoire en Coupe du monde de basket après avoir vaincu l'équipe iranienne 79-67 dans le cadre de la deuxième journée du premier tour. Les Tunisiens ont pu compter sur un bon Salah Mejri, auteur de 22 points et 15 rebonds. Au démarrage samedi, la Tunisie a perdu par un écart de 39 points contre l'Espagne, 62-101. Reste à jouer pour les Tunisiens un dernier match face à Porto Rico ce mercredi. Par contre, la Côte d'Ivoire, l'Angola et le Nigeria sont encore tombés. L'Angola s'est de nouveau incliné 61-91 face à l'Italie. Deuxième match infructueux aussi pour la Côte d'Ivoire, défaite 71-87 par le Venezuela. De son côté, le Nigeria est tombé devant l'Argentine 94-81. Le Sénégal tentera de relever la tête aujourd'hui face à l'Australie après sa défaite 47-101 devant la Lituanie.
Galatasaray prête Mbaye Diagne à Bruges après l'arrivée de Falcao.
L'attaquant international sénégalais a été prêté au club belge par le club turc, où sa présence était menacée avec l'arrivée du buteur colombien Radamel Falcao. Recruté lors de la trêve hivernale la saison dernière, Diagne, âgé de 27 ans, a inscrit 11 buts en 16 rencontres avec Galatasaray. De son côté, le défenseur camerounais Aurélien Tchédjou s'est engagé en faveur d'Amiens en France donc pour deux saisons en Ligue 1. Le Togolais Floyd Haïté a lui quitté l'Angleterre pour la Turquie. Fulham a confirmé le transfert d'Haïté à la formation de Glenkirk Birlijik. L'Algérien Hicham Boudaoui a signé à l'OGC Nice.
En athlétisme, Wade Van Niekerk renonce à défendre son titre au Mondiaux.
Le champion olympique sud-africain et recordman du monde du 400 mètres a déclaré forfait pour les Mondiaux 2019 à Doha en raison d'une blessure qu'il traîne depuis octobre 2017. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, Van Niekerk, 27 ans, n'a pu disputer de compétition internationale depuis. Il avait décalé son retour à la compétition initialement prévue pour le meeting de la Ligue de Diamants à Monaco en juin en raison d'une contusion osseuse au genou à l'entraînement, mais gardait l'espoir de s'aligner à Doha du 27 septembre au 6 octobre. C'est encore raté.
Christian Coleman lui sera présent à Doha.
Le sprinter américain pourra participer aux Mondiaux 2019 sur 100 mètres. L'agence antidopage américaine a retiré les charges qui pesaient sur Christian Coleman, soupçonné de 3 manquements au contrôle antidopage, l'homme le plus rapide de la planète depuis la retraite du Jamaïcain Usain Bolt, qui risquait une suspension de 2 ans, ira à Doha donc dans la peau du grand favori de la compétition reine des Mondiaux.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Burkina Faso, Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, deux généraux aux personnalités différentes, l'un a servi dans l'armée, l'autre dans la diplomatie, ont été condamnés respectivement ce lundi à 20 et 10 ans de prison au terme du procès du putsch manqué de 2015. Ces ex-barons du régime de Blaise Compaoré, qui lui a été renversé par la rue en 2014, échappent toutefois à la prison à vie réclamée par le parquet. Gilbert Diendéré a été reconnu coupable d'attentat à la sûreté de l'État et Djibril Bassolé de trahison. Le verdict est tombé après 19 mois d'un procès long et fastidieux, suspendu à plusieurs reprises et concernant 84 accusés. Baga Sukura s'est entretenu avec Maître Gitenga Samuel Ibrahim.
La chambre de première instance du tribunal militaire a rendu son verdict. Il a prononcé donc des condamnations contre certains. Il y en a qui ont été renvoyés parce que tout simplement ils avaient été conduits devant la chambre par erreur. Je crois qu'il y en a 3. Il y a qui ont été purement et simplement acquittés parce que les infractions qui leur étaient reprochées n'ont pas été déclarées constituées. Et il y en a aussi qui ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 20 ans. Donc, nous avons tous appris ce verdict et je crois que dans l'ensemble, le droit a été dit.
On voit que les peines prononcées par le tribunal sont inférieures aux réquisitions du parquet. Je rappelle que le parquet avait demandé la prison à vie pour Diendéré et 25 ans contre les membres du commando. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet?
Alors, je dirais que la juridiction a rendu son verdict selon son intime conviction. Les réquisitions du parquet ne lient pas la juridiction. Le parquet est une partie poursuivante. Et vous savez que la défense aussi est là pour défendre ses clients et apporter les preuves et les arguments juridiques pour attester que les infractions qui sont reprochées à leurs clients ne sont pas toujours constituées. Et également justifier que les peines ne sont pas toujours ce que le parquet a requis. Et dans l'ensemble, la chambre de première instance a analyser le dossier, certainement, son intime conviction ne lui a pas permis de retenir donc des condamnations allant jusqu'à perpétuité. Je crois que c'est pour cela qu'elle a retenu ce qui lui semble conforme aux infractions commises et ce qui lui paraît légal dans la condamnation.
Alors, on est là dans le cadre d'un tribunal d'exception, le tribunal militaire. S'il y a appel, où est-ce qu'on va se retrouver prochainement?
Alors, vous savez que le tribunal militaire est composé de chambres. Il y a une chambre d'appel devant laquelle les décisions rendues par la chambre de première instance peuvent faire l'objet d'appel.
On restera toujours dans le cadre du tribunal militaire.
Parce que le tribunal militaire dispose d'une chambre d'appel. Mais une fois que la chambre d'appel rend sa décision maintenant et qu'il y a les accusés qui ne sont pas toujours d'accord et qui veulent se pourvoir en cassation, en ce moment, ils vont aller devant la chambre judiciaire de la Cour de cassation.
C'était l'avocat Gitenga Samuel Ibrahim, joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, rentrée scolaire ce lundi pour les élèves déplacés internes de la crise anglophone, notamment pour ceux de Yaoundé, mais avec quelques spécificités. Reportage de notre correspondant sur place, Emmanuel Jules Tap.
En ce jour de rentrée scolaire, dans ce lycée, deux salles de classe ont été aménagées pour les élèves déplacés internes. Bridget Namandongomba, proviseur du lycée bilingue de Tougébé.
On a fait le recrutement, mais tous les dossiers, il y avait les gens qui regardaient strictement les bulletins des enfants déplacés. Parce que c'est avec ça qu'on pouvait juger qui est déplacé et qui n'est pas déplacé. Il y en a ceux qui viennent avec quand même l'acte de naissance et un vieux bulletin.
Les éditeurs ont une nouvelle fois produit le livre scolaire pour le système anglophone, malgré les pertes financières. Rogers Mforgwe, président directeur général de NMI Education.
NMI fait le livre pour anglophones. Nous n'avons pas hésité d'investir, peut-être pas au même niveau d'investissement que chez les francophones, parce que démographiquement parlant, il y a une différence. Mais les autres que je connais qui font dans le livre pour le sous-système anglo-saxon ou anglophone au Cameroun, ils ne refusent pas d'investir. Leurs livres sont disponibles.
Dans cette église de Yaoundé, les ressortissants des zones anglophones se sont aussi mobilisés en faveur des élèves déplacés internes. Dr Pius Mokongu, coordonnateur du comité d'aide aux déplacés à la Presbyterian Cameroonian Church à Yaoundé, en Siméon, à Yaoundé.
Pour nos élèves, nous avons donné des petites bourses et puis la distribution de certains besoins élémentaires comme le savon, le cahier et puis du riz. Pour les élèves, ils vont tous repartir à l'école et c'est aussi notre souhait. Et notre activité ne va pas se terminer aujourd'hui parce que pour cette journée, c'est essentiel pour la rentrée. Mais on va essayer encore de les suivre au cours de l'année. Parce qu'il y a certains besoins qui ne sont pas au moins réunis aujourd'hui. Et pendant l'année, on va voir comment notre congrégation toujours va essayer de les apporter encore plus d'aide.
Le gouvernement ne cache plus son inquiétude au vu du faible taux de scolarisation dans les zones anglophones ces trois dernières années. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les Béninois ont célébré le mois dernier le 25e anniversaire de la route de l'esclave. Il s'agit d'un projet élaboré par le gouvernement béninois en partenariat avec l'UNESCO. Lancé en 1994, l'initiative a pour objectif de briser le silence sur la tragédie de la traite négrière, mettre en lumière ses conséquences sur les sociétés modernes et contribuer à la culture de la paix. De Cotonou, reportage de Ginette Fleur à Dandé.
Un quart de siècle d'existence pour le projet La Route de l'Esclave, un projet voulu par Haïti et plusieurs pays africains et qui a reçu le soutien de l'UNESCO. Lancé au Bénin en 1994, La Route de l'Esclave a pour objectif de briser le silence sur la tragédie de la traite négrière, mettre en lumière ses conséquences sur les sociétés modernes et contribuer à la culture de la paix. Mais y a-t-il nécessité à encore se concentrer sur l'esclavage? Oui, répond Ali Moussaïe, expert de l'UNESCO et président du comité d'organisation.
On ne peut pas faire n'importe quoi avec la question de l'esclavage. C'est en tout cas ce qu'à travers la route de l'esclave, on essaye de conseiller les pays. On ne peut pas, sur le lieu de mémoire, faire n'importe quoi sur le lieu de mémoire. Il y a du recueillement, il y a du respect de la dignité des victimes. Et ça, c'est tout le travail qu'on essaie de voir pour aider les pays à trouver les moyens les plus appropriés. Et c'est très important que ceux qui viennent des Amériques, des Caraïbes, qui viennent sur le lieu de pèlerinage de l'Afrique, il faut aussi que eux, ils sentent que la douleur que leurs ancêtres ont senti, ont vécu et respecté aussi en Afrique.
Résistance, liberté et héritage est le thème de cette édition. Lancé en 1994 à Ouidah, le projet La Route de l'Esclave est un des programmes phares de l'UNESCO qui a œuvré de façon déterminante à une meilleure connaissance de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs conséquences. Pour Vijaya Tilok, la présidente du comité scientifique de l'UNESCO pour ce projet, le défi est de taille.
On pense que l'Afrique doit vraiment faire face à sa diaspora et de vraiment, comme Ali a dit, de rester très sensible. Quand les gens viennent du diaspora et viennent ici, ils ont toutes sortes d'émotions mixtes. Bien sûr, c'est la joie d'être en Afrique, la terre des ancêtres, mais il y a aussi une grande tristesse. Et il faut vraiment prendre en compte les émotions, les points de vue de la diaspora et de vraiment prendre ça en compte quand vous allez créer un tourisme culturel. Mais il faut vraiment être à l'écoute des gens, que ça ne devienne pas un genre de commercialisation de l'esclavage.
Pour Charles Akibode, expert de l'UNESCO pour la classification des sites historiques, membre du comité scientifique de la route de l'esclave, briser le silence reste une nécessité pour panser les plaies et aller de l'avant.
Je crois qu'il faudrait surtout qu'on montre que très souvent, de plus en plus, il y a une demande. Et ces lieux de mémoire, ces espaces de mémoire sont des compléments à l'éducation dans nos écoles. Et très souvent, on pense que ces lieux de mémoire, c'est pour les Européens, les gens qui ont des dollars ou des euros qui arrivent, alors que nos enfants eux-mêmes fréquentent ces lieux. Mais je pense que aussi nos États ont un devoir. Nos responsables ont un devoir. On ne doit pas folkloriser la mémoire africaine.
Selon les autorités, le Bénin rêve d'être une véritable terre d'accueil et d'inspiration pour tous les descendants d'esclaves en quête de réponse et de ressourcement. De Cotonou, Ginette Fleur, dans les Pouvéo Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
En Afrique du Sud, grève controversée des chauffeurs routiers du pays qui dénoncent le recours croissant par leurs employeurs à des étrangers. La police a interpellé une vingtaine de personnes dans la seule province du KwaZulu-Natal, après une vague de graves incidents clairement dirigés contre les étrangers. Les principaux syndicats du secteur ont condamné les violences et pris leur distance avec le mouvement. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Pretoria l'analyste Kofi Kwaku.
C'est un peu le discours syndicaliste, discours un peu traumaturge qui permet à certaines personnes de justifier leurs actions sur le terrain. C'est peut-être vrai, mais en ce moment, les chiffres ne sont pas très clairs. Mais ce qui est clair, c'est que les gens protestent et les gens ne sont pas contents, surtout les Sud-Africains, camionneurs sud-africains qui voient, qui se savent menacés, par exemple, par la capacité des camionneurs des autres pays de la sous-région, surtout du Zimbabwe, de la Zambie, de la Tanzanie, du Malawi, de l'Angola même, sinon même de la République démocratique du Congo. Et en ce moment, on sait que le chômage en Afrique du Sud est très élevé. Et la situation est tellement grave que les gens, eux-mêmes, ils prennent en eux leurs mains, ils prennent en main leur vie et leurs emplois. Donc, il n'y a pas seulement que les camionneurs, mais à travers toute la société, il y a beaucoup de protestations qui commencent à émerger et qui donnent l'impression, pas seulement l'impression, mais qui montrent qu'il y a une crise à la fois économique, mais aussi politique très grande. La chose la plus difficile, c'est que ce ne sont pas des protestations qui sont paisibles, mais ce sont des protestations qui sont violentes et qui se dégagent dans une atmosphère vraiment de tuerie.
Justement, depuis l'année dernière, on parle de dizaines de routiers étrangers et tués. Est-ce que ce sont des actes isolés ou bien structurés ou organisés?
Clairement, ce sont des actes très organisés. Si vous prenez par exemple l'exemple du KwaZulu-Natal où il y a beaucoup de protestations et de révoltes, les camionneurs étrangers sont vraiment la cible de ces protestations et qui sont attaqués régulièrement la nuit. Même si vous voulez, aujourd'hui et dans cette semaine, il y a eu encore des arrestations, il y a eu des attaques vis-à-vis des camionneurs étrangers. Donc ce sont des protestations qui sont très organisées et qui sont très violentes aussi.
Est-ce que le reste des étrangers a peur de ce qui se passe?
Bien entendu. Les protestations contre les camionneurs, c'est vraiment des petits faits relativement par rapport à ce que les étrangers, la plupart des étrangers, surtout ceux qui vivent dans les quartiers populeux, traversent. Il y a depuis, il n'y a pas seulement 2 ans, mais 3 ans, 4 ans, 5 ans, depuis 2008, de façon régulière, pratiquement tous les 2 ans, il y a ce genre d'attaques contre les étrangers. Il y a un mois, ça s'était passé et ça continue depuis longtemps, depuis des semaines. Et aujourd'hui, c'est même pire. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont tués dans les quartiers populeux, que ce soit aux alentours de Pretoria, Durban ou bien Johannesburg et dans d'autres endroits comme Port Elizabeth et Cape Town. Et ce sont des chiffres qui ne sont même pas divulgués par la police. Donc il y a beaucoup de gens qui disparaissent sans qu'on ne le sache. Et donc les étrangers ont vraiment, il y a une peur qui est là en Afrique du Sud. C'est quelque chose que moi je suis là depuis pratiquement un quart de siècle. Donc je n'ai jamais vu ça. C'est très effrayant pour les étrangers. Et malheureusement, les politiques restent muets, mais la police est incapable d'arrêter ces violences-là.
L'analyste Kofi Kwaku joint à Pretoria. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.